VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du lundi 15 juin 2015. Au micro, Morgane Guiriec et Idrissa Seydoudia. À la une ce soir.
Double attentat suicide visant la police à N'Djamena au Tchad. Au moins 28 personnes ont été tuées, y compris les kamikazes.
Et la Libye a annoncé la mort du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar.
Le président soudanais Omar al-Bashir a finalement pu quitter Johannesburg pour rentrer dans son pays.
Et les forces kurdes disent avoir coupé une route d'approvisionnement pour les djihadistes dans le nord de la Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
28 morts et une centaine de blessés à N'Djamena dans un double attentat suicide contre la police. Quatre assaillants ont péri dans l'assaut attribué à Boko Haram. Hassan Silla Bakari, porte-parole du gouvernement tchadien, joint par VOA Afrique.
Le bilan provisoire de ces attaques ignobles et barbares s'élève à 27 morts, dont 4 blessés et plus de 101 blessés. Toutes les mesures sécuritaires idoines et appropriées sont prises par les forces de défense et de sécurité. Et ces mesures fortes et énergiques sont déjà mises en œuvre. Par ailleurs, une cellule de crise a été mise en place par le Premier ministre du gouvernement. D'ores et déjà, la circulation des véhicules à vitres fumées est formellement interdite. Tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées, le gouvernement rassure la population et l'invite à garder tout son calme et sa sérénité, car la situation est entièrement sous contrôle. Aussi, il convient de rappeler que ces attaques qui visent à créer une psychose au sein de la population ne sauraient émousser la détermination et l'engagement du Tchad à combattre le terrorisme. Rien ne pourra ébranler le calme légendaire des Tchadiens qui ne céderont jamais à la terreur. Le gouvernement poursuivra sans relâche la lutte contre ces criminels qui ont pour seul dessein de semer la mort et la désolation dans les familles tchadiennes et africaines. Boko Haram se trompe de cible. Ces terroristes sans foi ni loi seront débusqués et mis hors d'état de nuire.
C'était Hassan Silla Bakari, porte-parole du gouvernement tchadien.
La Libye a annoncé la mort du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar, cerveau de la meurtrière prise d'otage d'Ina Menas en Algérie en 2013. Mais ce n'est pas la première fois qu'il est donné pour mort, nous dit Claire Morin-Gibourg.
Les autorités libyennes sont affirmatives. L'ex-chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Mokhtar Belmokhtar, a bien été tué par un raid américain dans l'est de la Libye. Celui que l'on surnommait le Borgne avait monté son propre groupe djihadiste, les signataires par le sang, qui avait revendiqué l'attaque sanglante en janvier 2013 sur le complexe gazier d'In Amenas en Algérie et le double attentat suicide en mai 2013 qui a fait une vingtaine de morts au Niger. Le Pentagone a bien confirmé que Belmokhtar avait été la cible d'une frappe américaine, mais sans donner des détails supplémentaires. S'il était confirmé, le décès de Belmokhtar représenterait un grand succès pour les Américains. Mokhtar Belmokhtar était depuis des années l'une des plus grandes figures du terrorisme dans le Sahel.
Voilà, et c'était donc Lionel Gaïma.
Voilà, maintenant, Omar el-Bashir a pu quitter Johannesburg pour rentrer dans son pays sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI qui l'accuse de génocide. Le président soudanais avait vu la justice sud-africaine se saisir de son cas à la demande d'une ONG qui réclamait son arrestation, Nicolas Pinot.
Soulagement de l'opinion publique africaine, consternation des défenseurs des droits de l'homme. Ce départ sans encombre d'Omar el-Béchir s'est effectué contre l'avis de la justice sud-africaine. Ce lundi, le juge Denstan Mlambo a estimé que le gouvernement sud-africain avait enfreint la constitution du pays en n'arrêtant pas le président soudanais Omar el-Béchir. Cette déclaration a été faite alors que M. Béchir était déjà dans l'avion pour Khartoum. Recherché pour génocide par la Cour pénale internationale et venu participer au 25e sommet de l'Union africaine, le président soudanais n'avait pas semblé s'inquiéter outre mesure de ce rebondissement judiciaire. Avant le sommet, Pretoria aurait donné des garanties à l'homme fort du Soudan qui défie la CPI depuis qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre en 2009 pour les crimes commis au Darfour. Les Sud-Africains, comme bon nombre de chefs d'État du continent, accusent la CPI de ne juger que les Africains dans ses tribunaux. Le procureur adjoint de la CPI s'est dit déçu que l'Afrique du Sud n'ait pas arrêté Omar el-Béchir. Le bureau du procureur de la CPI pourrait désormais porter l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Crise burundaise, les ministres des Affaires étrangères de la Tanzanie et de l'Ouganda étaient aujourd'hui à Bujumbura. Ils ont rencontré des membres de la société civile, de l'opposition et le président Pierre Nkurunziza, à qui ils ont remis un message des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Louis Kawemebusa, porte-parole adjoint de la présidence burundaise, dit qu'il ne voit pas de raison de reporter les élections.
Ils ont trouvé que même à 80%, ces recommandations sont en train d'être mises à l'exécution par le gouvernement du Burundi. Ils ont aussi échangé sur la situation actuelle. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rendu compte que 100% du territoire burundais est en sécurité, que même là où il y avait des manifestations, il n'y en a plus, et que même les quartiers qui avaient été salis par ces manifestations, maintenant les quartiers sont devenus très propres. Concernant la sécurité du processus électoral, les forces de l'ordre, la police et l'armée sont déjà dans toutes les collines du pays. C'est pour superviser, identifier là où il y aurait des armes à feu détenues par les civils. Et c'est justement dans le cadre du désarmement de la population. Vous savez très bien qu'il y a déjà eu plus de 100 000 armes à feu qui ont déjà été retirées de la population civile. Et c'est un travail qui continue, même aujourd'hui.
Voilà, c'était le porte-parole adjoint de la présidence burundaise, Louis Kamwe Nubusa.
Le procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda devant la Cour internationale, la Cour pénale internationale, s'ouvrira au siège de la Cour à La Haye et non en République démocratique du Congo, où il est accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'indique la CPI.
Présidentielle ougandaise, l'ex-premier ministre Amama Mbabazia a annoncé aujourd'hui vouloir affronter le chef de l'État sortant Yoweri Museveni en 2016. C'est ce qu'indique l'AFP.
Les corps de 18 migrants d'Afrique subsaharienne, morts de soif et d'épuisement, ont été découverts dans le désert. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, ils ont perdu leur route dans une tempête en direction de l'Algérie. Ils venaient du Niger, du Mali, du Sénégal, de Centrafrique, du Libéria et de Guinée. Et l'un était algérien.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François semble plus que jamais décidé à combattre la pédophilie au sein de l'Église. Le Saint-Siège a annoncé aujourd'hui l'ouverture en juillet d'un premier procès au Vatican pour pédophilie concernant un ancien nonce en République dominicaine et le limogeage de deux évêques américains accusés d'avoir couvert des prêtres pédophiles dans leur diocèse. Salwa Jafari.
Le Saint-Pierre poursuit doucement mais sûrement son chemin de croix avec des mesures sans précédent. 66 ans d'origine polonaise, l'ancien nonce Joseph Wellowski sera le premier à en faire les frais. La première audience est prévue le 11 juillet. Les délits de l'ancien ambassadeur ont été commis durant son séjour romain de 2013 à 2014, ainsi que durant ses fonctions en République dominicaine de 2008 à 2013. Détention de matériel pédopornographique, abus sexuels sur mineurs à Saint-Domingue, les preuves sont accablantes, les charges sont lourdes. Dans la même lignée, le pape a accepté aujourd'hui la démission de deux évêques américains. L'archevêque de Saint-Paul et Minneapolis, Mgr John Clayton Nichted, et celle de son adjoint, Mgr Lee Anthony Pichet, conformément à une disposition du Code de droit canon qui prévoit une sanction en cas de faute grave. Une nouvelle instance a été mise en place la semaine dernière pour juger les évêques coupables de négligence ou de complicité. Ces mesures antipédophiles illustrent la ligne plus sévère du Vatican pour faire face à ce fléau, même si d'autres voix se lèvent pour reprocher au Saint-Pierre de ne pas aller assez loin.
Le président français François Hollande est arrivé lundi en début d'après-midi à Alger, où il a salué le combat commun mené par les deux pays contre la menace djihadiste, notamment le rôle d'Alger pour la paix au Mali. Et puis, les miliciens combattant les militants du groupe État islamique dans le nord de la Syrie disent avoir saisi une route vitale entre la frontière, la ville frontalière de Tal Abyad et Raqqa, le QG des djihadistes. Poursuite également des frappes aériennes de la coalition menée par les États-Unis contre le groupe État islamique, dont 3 raids en Syrie et 16 en Irak.
Environ 40 étrangers candidats à des attentats suicides entrent chaque mois en Irak, a indiqué aujourd'hui le Premier ministre Haider Al-Abadi, appelant les pays de la région à freiner l'afflux de combattants étrangers.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, exhorte les parties en conflit au Yémen à observer une trêve humanitaire de 2 semaines au moins pendant le mois saint du Ramadan qui commence cette semaine.
Et l'Italie hausse le ton face à la France qui nie catégoriquement avoir bloqué sa frontière à Vintimille où des dizaines de migrants s'entassent dans l'espoir de gagner le nord de l'Europe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco ce soir avec Nathalie Barge.
Ouverture à Abidjan de la 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne sur le thème « Créer un modèle financier africain », rapporte l'APA. L'objectif du FIFAS 2015 est de promouvoir l'inclusion financière des faibles revenus, notamment à travers la banque mobile, le microcrédit et la microassurance. L'agence de notation financière internationale Fitch Ratings a attribué 3 B à la Banque ouest-africaine de développement, accompagnée de perspectives stables pour ses émissions à long terme, rapporte Jeune Afrique. L'agence retient que 64% des prêts sont octroyés aux États membres ou cautionnés par ces derniers et que la BOAD n'a jamais souffert d'un défaut de paiement sur ses prêts souverains. Dans une interview avec le journal Le Monde, le chercheur Patrick Meyer, spécialisé dans la cartographie en zone de crise, estime que les drones à utilisation scientifique, environnementale et humanitaire ont un très bel avenir en Afrique. Monsieur Meyer dit que leur utilisation croissante est encourageante tant leurs capacités permettent de s'affranchir des contraintes géographiques ou du manque d'infrastructures. Nous assistons à une révolution du drone en Afrique au service de défis complexes, poursuit-il, avant d'ajouter « Qui aurait imaginé il y a 20 ans que les téléphones mobiles allaient transformer les télécommunications en Afrique, permettant le développement d'applications bouleversant le secteur bancaire ?»
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie. Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault.
Bonsoir Mangane.
Coupe du monde féminine au Canada, dernier match des Ivoiriennes.
Déjà éliminées après 2 défaites, les éléphantes affrontent cette nuit les Norvégiennes, sérieuses candidates au titre. Autre match, Thaïlande, Allemagne, Chine, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas-Canada. Les 2 autres pays africains en lice, le Nigeria et le Cameroun, joueront leur qualification demain.
Incident raciste sur les pelouses en Europe.
L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la fédération croate après le match Croatie-Italie. C'était vendredi à Split. Sur la pelouse, les traces d'une croix gammée étaient visibles durant la première période de ce match du groupe H des qualifications à l'Euro 2016, disputé à huis clos en raison de précédentes sanctions. Des employés du stade de Split étaient intervenus à la mi-temps pour effacer les traces de croix gammée. L'instance disciplinaire de l'UEFA se prononcera le 16 juillet prochain.
Mort d'une icône du football brésilien.
Le footballeur Zito, double champion du monde en 1958 et 1962, est décédé hier à son domicile de la banlieue de Sao Paulo à l'âge de 82 ans. L'ancien milieu de terrain avait été sacré champion du monde en 1958 en Suède et en 1962 au Chili, à chaque fois aux côtés du roi Pelé, marquant un but en finale du mondial chilien contre la Tchécoslovaquie. Le Brésil l'avait emporté en finale 3-1.
Finale NBA, Golden State passe devant.
Pour la première fois depuis le début de la finale 2015, Stephen Curry a justifié son statut de meilleur joueur de la saison régulière et Golden State a assommé Cleveland 104-91. Les Warriors mènent 3-2 et n'ont plus besoin que d'un succès pour décrocher le 4e titre NBA de leur histoire, le premier depuis 1975. LeBron James a inscrit 40 points et réussi son 2e triple-double, 40 points, 14 rebonds et 11 passes. Prochain match dans la nuit de mardi à mercredi, ce sera à Cleveland.
Voilà pour les sports, merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydou Dia et Morken Diriek en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Idrissa, le Tchad.
Oui, et un retour sur les deux attentats suicides qui ont fait 28 morts et une centaine de blessés aujourd'hui à N'Djamena. Les autorités pointent du doigt le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Timothée Donangmaï a joint sur place Michael Didama, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Temps.
D'abord, il faut se dire que beaucoup de Canadiens ne s'attendaient pas à ce que Boko Haram puisse, les terroristes puissent porter la guerre juste à l'intérieur de N'Djamena, mais il fallait s'y attendre parce que le Tchad est quand même très engagé dans la lutte contre les terroristes en Afrique. Ce matin, je crois que c'était autour de 11h quand cette violente explosion a été entendue. Ça a été un peu la stupéfaction. Les gens couraient dans tous les sens. On a vu tout de suite les forces de défense et de sécurité encercler le coin avec des abattages monstres, des gens qui couraient dans tous les sens. Mais je pense qu'après, les gens se sont rendus à l'évidence de la chose et les rues se sont pratiquement vidées dans les quartiers où je suis basé. C'est vraiment la vigilance, quoi, parce qu'on s'est dit que ça ne peut être que la partie visible de l'iceberg, qui se peut que les gens soient prêts à encore répéter des actes encore plus graves que ce qu'on a vu ce matin.
Les autorités tchadiennes avaient déjà pris des mesures contre Boko Haram à N'Djamena. Alors, comment s'expliquent ces attaques?
Bon, c'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits au niveau des autorités, mais quand nous sommes face à un groupe qui utilise tous les moyens pour faire mal. Je pense que les mesures ne sont jamais assez suffisantes. La preuve, c'est que malgré les contrôles aux frontières, malgré les faits que la police redouble des gestes partout, et on a connu ce qu'on a vu ce matin, ça veut dire que la police et les forces de sécurité ainsi que les autorités vont sûrement encore régler certaines choses pour que nous soyons mieux protégés. Mais c'est une alerte, une véritable alerte pour les autorités et pour les Tchadiens.
On parle de suspects qui seraient recherchés, qu'en est-il?
Oui, c'est ce que nous avons appris parce que il semblerait que pour opérer un tel coup, parce que disons, là où ils ont opéré, c'est quand même assez stratégique. C'est pratiquement en face de la résidence de l'ambassadeur de France, moins de 300 mètres du palais présidentiel. Donc, je crois que c'est un symbole, un message fort que ceux-là ont voulu passer. Et je crois que pour réussir un coup comme celui de ce matin, il a sûrement fallu beaucoup de logistique, de repérage, peut-être des informateurs aussi sur place.
C'était Michael Didama, directeur de publication de l'hebdomadaire tchadien Le Temps.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
En République démocratique du Congo, les ONG nationales et internationales s'appuient sur un rapport d'une commission du Parlement et exigent la libération des militants citoyens arrêtés depuis 3 mois. L'Assemblée nationale a examiné en fin de semaine dernière le rapport de la commission qui prend à partie les services de sécurité pour avoir fallacieusement accusé les militants citoyens de visées terroristes. Les ONG réclament aussi la libération des politiciens arrêtés au cours de la période qui a suivi les manifestations contre la modification de la loi électorale qui pourrait permettre au président Joseph Kabila de rester au pouvoir au-delà de la minute de la limite de la Constitution. VOA Afrique a joint l'un des signataires de la déclaration des ONG, le président de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende.
Il y a deux qui sont encore en détention. Il s'agit des frères de Maruma et de Yves Makwambala, pour lesquels les organisations de défense des droits de l'homme sont 14 organisations internationales et 220 organisations congolaises ont demandé la mise en liberté ce matin dans la déclaration que nous avons rendue publique et dans laquelle nous avons démontré que nous étions d'accord avec la commission parlementaire en ce qui concerne les conclusions de son rapport. Mais nous avons aussi relevé le fait que les services de sécurité ont violé de manière systématique les droits de nos collègues et qu'ils ont besoin à des réparations et que les personnes qui ont été à la base de ces différentes violations des droits de l'homme soient poursuivies en justice.
Sur papier, la Constitution congolaise garantit la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que ce n'était pas une manière d'intimider pour que les gens ne manifestent plus?
Effectivement, les dossiers civils s'inscrivent dans un contexte où la population est contre la révision de la Constitution et où la population est contre la prolongation du mandat du président de la République. Et donc, le dossier Filimbi a servi au service de sécurité, mais aussi au gouvernement, de faire peur aux jeunes et aux organisations de la société civile pour qu'ils ne contestent pas ce qui pourrait arriver éventuellement le maintien du président Joseph Kabila au pouvoir au-delà du délai défini par la loi. Malheureusement, nous avons constaté qu'ils se sont mal pris. Ils ont violé la liberté d'expression qui est garantie par notre Constitution, la liberté des réunions.
Vous parliez tout à l'heure d'autres personnes qui ont été arrêtées, mais qui étaient dans les organisations, les politiciens notamment.
Les politiciens, dont M. Jean-Claude Nambo, M. Kaziro, M. Ewanga, et bien d'autres qui ont été aussi arrêtés pour tout simplement s'être opposés ou pour avoir donné leur point de vue sur les questions qui concernent la marche de notre nation. Nous pensons que ceux-là aussi, dont Christophe Arnoui, sont encore maintenus en question de la loi de la République, de la Constitution de notre pays.
Voilà, c'était donc Jean-Claude Katende, joint par Eddy Sango.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Le Togo est en pleine saison pluvieuse, période au cours de laquelle l'épidémie de choléra fait rage dans certaines banlieues de Lomé, la capitale. Au ministère de la Santé, on se veut rassurant sur les mesures préventives et on insiste sur les consultations précoces. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le district sanitaire numéro 2 de Lomé commune est une zone en démon épidémique pour le choléra. La situation devient beaucoup plus préoccupante entre juin et juillet, car pendant la saison des pluies, plusieurs quartiers se retrouvent inondés. Pour prévenir les épidémies de choléra, le district mise sur la sensibilisation. Docteur Yao Doche Afeche, directeur du district sanitaire numéro 2.
Nous sensibilisons la population plus sur la salubrité, rendre propre nos milieux, surtout les dépotoirs sauvages que nous créons, les gens qui font leurs besoins dans la rue, etc. Nous sensibilisons surtout sur le lavage des mains avant et après les besoins et avant de manger. Il faut toujours laver la main au savon. S'il n'y a pas de savon, il y a la cendre qu'il faut utiliser pour pouvoir au moins désinfecter la main avant de manger. Le problème de l'eau de consommation se pose dans certains endroits où nous chlorons les eaux de boisson.
Cette méthode de prévention, couplée à une prise en charge précoce, sont des stratégies contenues dans la politique de lutte contre les maladies diarrhéiques adoptée par le Togo. Professeur Gado Agarasi Napokura, secrétaire général du ministère togolais de la Santé.
Le Togo a mis en place un système de surveillance intégrée de la maladie et de la riposte et nous avons des résultats tangibles puisque nous n'avons plus ces dernières années d'épidémie, mais quelques cas isolés. Les données de 2014, nous n'avons eu que 343 cas de choléra et seulement 12 décès.
Le réseau africain pour la surveillance du choléra africole assiste les pays membres, entre autres, sur le plan des recherches scientifiques. Avec la disponibilité du vaccin contre le choléra, c'est une nouvelle étape de la lutte qui est engagée, estime Dr Martin Mengel, le directeur d'Africol.
Le vaccin est développé depuis 20 ans. Le problème, c'était qu'il n'avait pas assez pour pouvoir couvrir des populations entières. Dans les dernières années, il y a plus de production. Et c'est maintenant que ça devient un vrai outil pour la santé publique. toujours en combinaison avec la hygiène.
Les 10 et 11 juin dernier s'est tenue à Lomé la 5e rencontre d'Africol. L'un des obstacles à la prévention du choléra étant l'insuffisance des systèmes de surveillance, cette rencontre a fait des recommandations en vue de renforcer le système de surveillance et accentuer la prévention dans les zones à haut risque. Kylie Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Ici aux États-Unis, Jeb Bush, l'ancien gouverneur de la Floride, fils et frère de deux présidents américains, va à son tour tenter d'accéder à la Maison-Blanche. Il va être aujourd'hui le 11e républicain à annoncer officiellement sa candidature à l'investiture de son parti républicain pour la présidentielle de 2016. Il ne sera probablement pas le dernier, puisque d'autres candidatures sont attendues dans les semaines à venir. Michel Joseph.
Dans une course dominée côté républicain par des conservateurs, faisant appel à une base tout aussi conservatrice, sinon plus, Jeb Bush a cherché à démontrer dans une vidéo qu'il faisait appel, lui, à un plus vaste éventail d'électeurs, dont les Hispaniques, qui ont massivement voté pour le président Barack Obama en 2012. Monsieur Bush est marié à une Hispanique. Mes convictions profondes commencent avec les prémices que les membres les plus vulnérables de notre société devraient être devant et non derrière, dit-il. C'est à Miami, en Floride, près de sa maison, que Jeb Bush annoncera officiellement sa candidature cet après-midi. L'ancien gouverneur, qui est âgé de 62 ans, a pu lever d'énormes sommes d'argent pour sa campagne et passer au début pour le favori chez les Républicains. Mais de récents sondages le montrent virtuellement ex aequo avec deux autres candidats, son ancien protégé, le sénateur de Floride Marco Rubio, et le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, qui n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Les autres prétendants républicains ne sont pas loin derrière. Jeb Bush s'est juré de ne jamais trahir ses convictions profondes, particulièrement dans les domaines de l'immigration et de l'éducation, plutôt impopulaire auprès des électeurs conservateurs qui jouent un rôle déterminant dans les premières consultations électorales en janvier dans les États clés comme l'Iowa et le New Hampshire. Ce sont les deux grands gagnants de ces primaires démocrates et républicaines qui s'affronteront à la présidentielle de novembre 2016 pour pouvoir succéder en janvier 2017 à Barack Obama qui ne peut pas faire plus de deux mandats selon la Constitution américaine. Hillary Clinton, l'ancienne première dame et ex-secrétaire d'État américaine, reste la favorite chez les démocrates et même face à tout éventuel candidat républicain, si l'on en croit les sondages. Battant campagne samedi dernier à New York, Madame Clinton a tenu un discours qualifié de populiste par les commentateurs politiques en promettant de promouvoir l'égalité des chances et de n'épargner aucun effort dans la défense de la classe moyenne éprouvée. Elle a dit à des milliers de partisans qu'elle briguait la présidence pour tous les Américains, y compris les laissés pour compte de la grande récession de 2008. L'Amérique ne peut pas réussir si vous ne réussissez pas vous-même. C'est pourquoi je suis candidate à la présidence des États-Unis. Hillary Clinton a reproché aux candidats républicains de n'avoir aucune idée des réalités des électeurs américains et de l'évolution de leur vue sur plusieurs sujets.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma. Présentation Morgane Kiriek et Idrissa Seydoutia.
Et comme vous avez l'habitude de le dire, Morgane et aussi Gabi, ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Les infos dans moins d'une minute.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.